20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Il l'appelait lui-même le dernier péché de sa vieillesse. Rossini avait interrompu sa carrière de compositeur d'opéra depuis longtemps lorsqu'il composa, à la fin de sa vie donc, sa petite messe solennelle, un ouvrage plein de tendresse et de piété, une œuvre qui fait l'objet en ce moment d'une production scénique qui en souligne merveilleusement la poésie. Une production qui sera présentée ces prochains jours à Besançon, Sète et Dunkerque, dirigée par Gilda Pingier à la tête de son excellent ensemble Mélisme. Gilda Pingier sera justement à cette occasion notre invitée tout à l'heure. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. L'opéra de Sydney a rendu hommage samedi soir aux pompiers qui luttent en ce moment contre les terribles incendies qui ravagent le pays. Sur les magnifiques voiles du bâtiment ont ainsi été diffusées des images, des lieux touchés et des secouristes mobilisés. Et puis un spectacle pour collecter des fonds en faveur des communautés touchées a été annoncé pour le 16 mars. Philippe Gault vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Alexandre Bloch conclut cette semaine sa grande odyssée Malheur à la tête de son Orchestre National de Lille, et c'est tout naturellement avec la grandiose 9e symphonie, ultime symphonie de Malheur, que ce cycle s'achèvera mercredi et jeudi soir à l'Auditorium du Nouveau Siècle, mais aussi vendredi au Phénix de Valenciennes. À noter que le concert de mercredi sera diffusé en direct sur Radio Classique. Tougan Sokiev retrouvera, lui, cette semaine les musiciens de l'Orchestre de Paris. C'est la deuxième fois cette saison qu'il dirige la Phalange parisienne. Un concert d'autant plus attendu que Tougan Sokiev fait partie des chefs pressentis pour en prendre la direction. Au programme de ces deux concerts qui se tiendront mercredi et jeudi à la Philharmonie, la Damnation de Faust de Berlioz, avec également le chœur de l'Orchestre de Paris, et puis une splendide distribution, Paul Groves dans le rôle de Faust, Ildebrando d'Arcangelo en Méphistophélès, et puis la divine Karine Dehé dans le rôle de Marguerite.
Thank you.
D'amour, l'ardente flamme célébraire de Marguerite dans la damnation de Faust de Berlioz, air qui figure au programme du tout récent album de Carine Dehaie avec l'orchestre Victor Hugo dirigé par Jean-François Verdier. Carine Dehaie qui sera donc la Marguerite de cette damnation de Faust dirigée par Tougan Sokiev mercredi et jeudi soir à la Philharmonie de Paris à la tête de l'orchestre de Paris.
L'Or Maison sur Radio Classique.
La coopérative, ce collectif qui réunit quelques scènes nationales françaises, nous invite en ce moment à découvrir une pétillante et touchante production, la Petite Messe solennelle de Rossini, dans la mise en scène de Yossou Ben et Emily Wilson, avec les chanteurs du chœur de chambre Mélisme et leur chef Gilda Pingier. Après avoir ébloui les publics de Rennes et de Compiègne, cette production sera présentée les 14, 15 et 16 janvier à Besançon, le 21 à 7 et puis les 10 et 11 février à Dunkerque. Gilda Pingier, que je suis allée rencontrer jeudi soir à Compiègne, nous éclaire sur cet ouvrage, sur cette petite messe solennelle qui lui tient tant à cœur et sur son adaptation scénique tout à fait originale.
C'est une œuvre que j'ai dirigée déjà pour la première fois en fait à l'Opéra de Rennes il y a plus de 20 ans. Alors c'est une œuvre qui est à la fois parfois même burlesque et en même temps qui contient aussi une émotion très intéressante. Et ce qui m'avait touché et qui me touche encore aujourd'hui, c'est cette sorte d'ambivalence au niveau de l'émotion qui fait qu'à un instant T, dans le public, il peut y avoir une personne qui rit et une autre qui pleure sur les mêmes notes. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ça me fait penser à un univers de Chaplin un peu. Voilà, c'est une œuvre que je fréquente du coup depuis un moment et que j'ai beaucoup de plaisir toujours à reprendre. C'est une sorte de presque de compagnonnage, j'allais dire, avec cette pièce. Là, il y a peut-être une chose qui est un petit peu nouvelle pour moi, c'est finalement la présence de l'accordéon à la place de l'harmonium. Rossini l'a prévu avec piano et harmonium, qui était une formation assez courante au 19e siècle, une formation de salon. Et de plus en plus, on l'interprète avec un accordéon, ce qui permet, je trouve, d'avoir des sonorités et des couleurs qui tirent effectivement vers la musique populaire, vers la musique de rue, parfois presque même vers le tango. Dans l'interprétation, je trouve que ça ne change pas vraiment, tout est dans la musique en fait, tout est dans la musique, et puis surtout je pense que les choses sont suggérées par Rossini, et c'est vraiment la liberté de l'auditeur de je pense que quelqu'un qui fréquente la musique sacrée va y trouver son compte, mais quelqu'un qui fréquente l'opéra va aussi y trouver son compte. Rossini d'ailleurs disait de cette messe qu'il a composée à la fin de sa vie, voilà, je l'ai fini ma messe, est-ce que c'est vraiment de la musique sacrée, j'en sais trop rien, en tout cas enfin je le dis avec mes mots, mais c'était une sorte d'offrande à Dieu de ce qu'il était. Et finalement, ce côté très humain, je le trouve vraiment intéressant et touchant. Thank you.
Cette petite messe solennelle fait l'objet ici, dans cette production, d'une mise en scène, alors que ce n'est pas une œuvre pensée pour le théâtre, pour la scène. Qu'est-ce que la mise en scène peut apporter à une œuvre sacrée, à cette petite messe de Rossini? Qu'est-ce que cette mise en scène, en tout cas, apporte selon vous, Gilles Dapingier?
Alors, je vais peut-être repartir de la genèse finalement de cette idée, parce que c'est depuis longtemps, après l'avoir faite en concert, j'ai eu envie, et c'était des analogies un tout petit peu d'émotion, je me suis dit, on a un matériau qui est formidable, qui est, vous avez raison, c'est une pièce de musique religieuse, donc qui n'est pas destinée à être mise en scène, mais en même temps, on a vraiment cet aspect lyrique extrêmement présent chez Rossini. Et je me rappelle avoir assisté il y a très longtemps à un spectacle du Cirque Plume, et où j'avais été frappé par la poésie, et c'est ce qui m'a donné l'idée, l'envie en tout cas à l'époque, de me dire tiens, si on mélangeait des univers, ça permettrait finalement à un auditeur d'avoir la possibilité de voir cette pièce différemment, de l'entendre différemment, presque comme une sorte de boule à facettes autour de laquelle on tourne, et chaque personne finalement va voir ou entendre quelque chose de différent. Et la mise en scène, et particulièrement celle de Yosuben et d'Emily Wilson, nous a emmené vraiment dans un terrain où on part de quelque chose qui est, j'allais presque dire, assez terre à terre, et où on a une humanité presque désorganisée, qui sait plus trop ce qu'elle fait là, et finalement, à travers des choses toutes simples du quotidien, de la vie quotidienne, arrive à se rassembler autour de cette œuvre, qu'on soit croyant ou pas, il y a une forme de transcendance finalement qui s'effectue, et qui culmine bien sûr à la fin dans ce magnifique Agnus Dei.
Et du coup, qu'est-ce que cette mise en scène vous a révélé sur cette œuvre? Quel éclairage a-t-elle apporté par rapport à la conception que vous avez de cette petite messe solennelle de Rossini, par rapport à son humanité, par rapport à son message?
Mais je crois que ça lui permet d'être encore plus enraciné. Et en étant enraciné, finalement, de permettre à l'esprit de voyager encore davantage. En tout cas, à titre personnel, ça m'a beaucoup appris, puisque il se trouve que je suis également dans la mise en scène, ce qui est quand même assez inhabituel pour un chef de chœur. J'y ai pris beaucoup de plaisir dans la direction elle-même, le fait d'être au milieu des chanteurs. Il y a vraiment relationnellement quelque chose de très fort qui se passe. Et puis, surtout, il y a des moments où effectivement, le geste est un peu épuré, s'insère dans la mise en scène, et où le rapport au corps pour un chef de chœur s'approfondit. Et finalement, moi, ça m'a aidé encore plus, je pense, à trouver justement ces racines qui permettent aux branches de l'arbre de s'élever encore plus haut.
Alors, cette petite messe solennelle de Rossini, dans cette production, vous l'avez déjà donnée à la fin de l'année dernière. Vous allez la redonner à plusieurs reprises. Donc, il y a un nombre important de représentations grâce à ce réseau de la coopérative. C'est, j'imagine, particulièrement exaltant de pouvoir donner non seulement un très grand nombre de fois une même œuvre, mais dans des lieux différents, face à des publics différents, des acoustiques différentes. Donc, il y a une adaptation aussi.
C'est ça, exactement. C'est évidemment une grande chance que ce spectacle puisse tourner un petit peu partout en France, ce qui va être le cas cette saison et aussi la saison prochaine. Et pour nous, c'est toujours quelque chose de très plaisant lorsqu'on a travaillé pendant 15 jours, 3 semaines sur un spectacle, que de savoir que ce spectacle va vivre pendant un certain nombre de temps, avec à la fois l'exaltation de ces reprises, et puis la difficulté de devoir s'adapter très rapidement à des publics différents, à des acoustiques différentes, mais ça fait partie du travail, et je pense que on a abordé ça aussi de A à Z, un petit peu comme une troupe finalement. Le fait que moi je sois aussi dans la mise en scène, il y a aussi des comédiens, le travail avec les metteurs en scène, la complémentarité du travail musical et de la mise en scène, on crée vraiment un esprit de troupe, on est un petit peu sur les routes comme des saltimbanques, et c'est effectivement extrêmement plaisant.
Oh,
Un extrait de la petite messe solennelle de Rossini dans cette production particulièrement touchante, mise en scène par Joss Houben et Emily Wilson, avec donc le chœur de chambre Mélisme de Gilda Pingier, mais aussi la pianiste Colette Dillard et l'accordéoniste Élodie Soulard. Une production qui avait été créée en décembre à Rennes, à l'Opéra de Rennes, opéra qui vient de rejoindre le collectif de la coopérative. Son directeur, Mathieu Ritzler, nous en dit plus justement ce soir sur le fonctionnement de ce réseau de scènes nationales françaises qui fédèrent leurs forces pour créer des spectacles originaux, ambitieux et surtout accessibles à un large public.
L'idée de se dire que les formes lyriques, soit les grandes formes, soit des formes plus mobiles, plus légères, peuvent aussi être représentées, être données dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux exclusivement dédiés à l'opéra. Et se mettre ensemble justement pour inventer ces formats nomades qui peuvent aller jouer aussi bien dans des maisons d'opéra que dans des scènes nationales, que dans des plus petits théâtres sur l'ensemble du territoire, c'est absolument passionnant. On arrive à créer des projets à la fois très stimulants artistiquement et puis on met en commun nos réseaux pour que ces projets vivent. Un projet comme La Petite Messe va vivre deux saisons avec de l'ordre d'une quarantaine de représentations, ce qui est extrêmement réjouissant.
Alors comment fait-on pour fonctionner à six théâtres, c'est ça aujourd'hui, pour tomber d'accord?
Alors l'enjeu effectivement c'est une question de partage de valeurs parce que c'est compliqué de tomber d'accord et notre parti c'est de faire nos choix à l'unanimité, c'est-à-dire qu'on vote pas, on se met d'accord sur une œuvre mais on discute jusqu'à tomber d'accord sur une œuvre, idem sur la maîtrise d'œuvre, donc metteur en scène, ensemble orchestral invité, et donc on se voit une fois par mois, une journée par mois tous ensemble pour se mettre d'accord et ensuite on confie la production déléguée de l'ouvrage à Loïc Boissier qui est producteur délégué pour la coopérative pour monter justement les productions et ensuite celles-ci peuvent partir en tournée. On met des moyens de production en commun bien sûr pour que ces productions existent. Les productions peuvent jouer dans nos propres théâtres mais aussi dans d'autres théâtres chez des collègues qui ont envie de défendre nos projets.
Alors cette petite messe solennelle a été créée chez vous à l'Opéra de Rennes. Est-ce que vous avez été quelque part un peu l'initiateur, le moteur de cet ouvrage-là?
L'idée de faire la petite messe solennelle vient d'un échange d'abord avec le chef de chœur Gilda Pingier qui avait envie d'une version scénique parce qu'on entend dans cette musique de Rossini cette forme de décalage à la fois tous les codes de la messe et en même temps on entend une forme de second degré de dérision etc. Et en discutant avec nos collègues de la coopérative, on s'est dit que c'était effectivement une bonne idée de monter cet ouvrage parce que c'est plus léger en termes de format, ça peut nous permettre d'avoir une proposition artistique assez mobile et l'année prochaine d'avoir par contre un format plus lourd. Donc effectivement, Rennes a été particulièrement investi dans la création de cet ouvrage cette année, d'autant plus que le chœur Mélisme est en résidence à l'Opéra de Rennes.
Thank you.
Un nouvel extrait capté en décembre dernier à l'Opéra de Rennes de cette petite messe solennelle de Rossini, chantée par le chœur de chambre Mélisme de Gilda Pingier. Une production à découvrir les 14, 15 et 16 janvier à Besançon, le 25 à 7, puis les 10 et 11 février à Dunkerque, et cela dans le cadre du réseau de la coopérative, dont la production de la saison prochaine, on vient de l'apprendre, sera La Dame Blanche de Boieldieu, interprétée par l'orchestre Les siècles.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Et je vous propose de refermer ce journal du classique avec le violoncelliste Jean-Guyen Queyras et le pianiste Alexandre Tarot qui viennent de s'illustrer au disque chez Harmonia Mundi. Complices, au pluriel, ainsi s'intitule leur album sorti vendredi dernier. Ce titre évoque le lien qui unit artistes et public au moment des rappels. Il désigne aussi ce qui nous anime depuis que nous parcourons le monde ensemble, voici quelques deux décennies. Lorsque nous entrons sur scène, notre cœur bat du désir d'inclure le public dans cette complicité, nous disent les deux musiciens, dont le programme est ainsi conçu comme un florilège de bis, de petites pièces qu'ils aiment offrir justement au public à la fin des concerts, des pièces de genre tendres, profondes ou drôles, dont quelques transcriptions, une vingtaine de miniatures connues ou plus rares, comme cette touchante valse triste de Franz von Fechtschey. La valse triste de Franz von Fechtschey qui figure au programme de ce tout nouvel album Complice de Jean-Guyen Queyras et Alexandre Tarot qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Jean-Guyen Queyras et Alexandre Tarot qui viendront d'ailleurs prochainement nous en parler. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie du pianiste Céline Mazari qui viendra nous présenter son tout premier album solo dédié à Beethoven. Et tout de suite, votre soirée se prolonge en musique avec Francis Drezel.